Voici le quatrième épisode de ma série sur l'année 1955. Au menu, l'abbé Pierre en croisade, les vedettes américaines à Paris, les maisons Lanvin, Dior et Patou en procès, Gabin récompensé et Aznavour malmené.
1955, Ondelat raconte sur Europe 1.
Les vedettes américaines aiment Paris. Et Europe numéro 1 le leur rend bien. Au printemps 55, Doris Day est en visite promotionnelle dans la capitale. Et c'est le journaliste Gilbert Lauzin qui réalise l'interview de la comédienne et chanteuse.
Ok.
Ok. Doris Day me regarde en ce moment avec des yeux effarés, mais je vais lui poser quelques questions en anglais pour lui demander ses impressions de visiteuse. What your impressions in Paris? The first time you come here?
It's my first time, and you want my impression?
Yes.
I think it's the most beautiful city in the whole world.
Doris Day nous dit que c'est vraiment pour elle la chose la plus belle qu'elle ait vue au monde.
Très jolie.
Vous venez de tourner quelques films. You have just finished some pictures, isn't it?
Yes, I just finished making a picture at Metro-Goldwyn-Mayer.
Yes, what's the title?
It's called Love Me or Leave Me.
Aime-moi ou quitte-moi.
Mais finalement, on choisira en France le titre de Les pièges de la passion. Le réalisateur Charles Vidor avait d'abord proposé le rôle de la chanteuse à Ava Gardner, qui a décliné.
Everybody loves my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Yes, everybody wants my baby don't want nobody but me. That's plain to see. I am his sweet patootie, and he is my loving man. Knows how to do his duty, loves me like no other can. Everybody loves my baby don't love nobody but me.
Dans ce film, Love Me or Leave Me, Doris Day joue et interprète la chanson phare du film.
Love me or leave me. Let me be lonely. You won't believe me, and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
Doris Day s'est fait connaître dans des films musicaux, normal puisqu'elle est comédienne et chanteuse. Mais durant cette année 55, elle change de registre, car Alfred Hitchcock la sollicite pour jouer dans son prochain film. Et elle s'est empressée de signer.
Vous allez partir au Maroc pour commencer un film. Et je crois pouvoir dire que c'est un film tout à fait nouveau dans le genre Doris Day. Car Doris Day, nous avons été habitués à la voir tourner des films fantaisistes. Or, le film qu'elle va tourner maintenant est un film de Hitchcock. Nous pouvons dire un remake du film qui portait comme titre anglais « The Man Who Knew Too Much », l'homme qui en savait trop. Ce film, qui avait été tourné en 1936, Hitchcock a décidé de le refaire maintenant et il a engagé pour cela James Stewart et Doris Day. Doris Day, maybe you have understood what I said now, that you are going to turn a new film with Hitchcock.
I have usually played in musicals.
Yes.
And this is not a musical, it's a very dramatic picture.
Et nous aurons bientôt l'occasion de voir une nouvelle Doris Day. Vous avez été, je crois, à Paris voir les couturiers, n'est-ce pas? Vous m'avez compris?
Couturier.
Hubert de Givenchy, je
Givenchy.
Pense.
Givenchy.
Oui. Expliquez-moi, explain to me.
At Givenchy?
Yes.
Well, I saw lovely suits and lovely dresses and beautiful accessories and everything was just marvelous and, I spent too much money.
Eh bien, je ne traduirai pas tout, mais Doris Day me dit qu'elle a vu de merveilleuses robes et qu'elle a dépensé beaucoup trop d'argent. Mais avant de vous laisser partir, before to leave you, I should like to ask you just one question. You are not only an artist, a picture artist, you also sing very much and very well, of course. And maybe you have got a new song.
Yes, I do have a new one. It's called Ready, Willing and Able.
Bon, eh bien, Doris Day nous dit en effet qu'elle a une nouvelle chanson qu'elle vient d'enregistrer et que nous ne connaissons pas encore en France, cette nouvelle chanson qui porte le titre anglais de Ready, Willing and Able. Vous m'avez compris?
You want me to sing?
Exactement.
Well, I don't have any music, but I can sing.
Oh, never mind.
I'm ready, I'm willing and able. And honey, now it's up to you. So lay your cards on the table and tell me what.
what you plan to do. I'm ready, able, and willing to join you in a little fun. But I won't take second billing. I've got to be your number one. I'm ready to give you my heart, dear. I'm willing to hand you the key. And I'm able to say from the start, dear, it's never belonged to anyone else but me. Oh, I'm ready, I'm willing and able.
Quelques mois après Doris Day, c'est une autre vedette américaine qui débarque à Paris, le chanteur Johnny Ray. Il doit se produire au Moulin Rouge. Et une journaliste d'Europe numéro 1, Sylvaine Pécheral, va à sa rencontre.
Johnny Ray, le chanteur sourd, surnommé le seul pleureur, le prince des lamentations, le mania du sanglot, le roi des larmes, est arrivé à Paris où il chante au Moulin Rouge. Il est arrivé précédé de 3 managers, dont un pour Londres, un pour Paris et un personnel, et de 2 secrétaires et d'un orchestre composé de 20 musiciens. Johnny Ray est le chanteur le plus populaire aux États-Unis. Il vend 30 000 disques par jour et la partition de sa chanson « Le petit nuage qui pleurait » s'est vendue à 350 000 exemplaires. Monsieur Will Press, qui est un des managers de Johnny Ray, va nous servir d'interprète. Pourquoi est-ce que Johnny Ray a-t-il déclaré « Je n'ai aucun talent » ?
Oh, this lady wants to know why you said that you had no talents at all.
On occasion I've said that in reference to my own voice. By that I meant I don't like my own singing and I don't have any of my records.
Ok. Il a dit que quand c'était au sujet de sa voix, il ne reconnaît pas le fait qu'il a une belle voix. Et pour lui, ce n'est pas... Il n'aime pas sa voix et puis il ne garde jamais ses disques.
Si Johnny Ray n'aime pas spécialement s'écouter, ça n'est pas le cas de son public. Un public d'ailleurs très féminin.
Chaque fois que Johnny Ray chante dans une ville, il déchire le cœur des femmes et ces femmes déchirent les vêtements de Johnny Ray. Oui. Est-ce qu'il pense faire de même avec les Parisiennes ?
Il pense que ça ne peut pas arriver ici parce que...
Pas
le même public.
When the blues overtakes me, gonna rock right away from here. Now when I get lonesome, I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell her I'm on my way back home. A flop and fly. I don't care if I die. I'm gonna flip a flop and fly. I don't care if I die. Don't ever leave me, baby. Don't ever, ever say goodbye.
C'était Johnny Ray lors de son concert au Moulin Rouge en 1955.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1955, l'abbé Pierre est une personnalité française absolument incontournable. L'hiver précédent, il s'est fait connaître par son appel en faveur des sans-abri. Pour mémoire, voici un extrait de l'appel.
Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien ? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait... Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part, nous répondez. S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors.
En cette année 1955, l'abbé Pierre a les honneurs du grand écran. Le film « Les chiffonniers d'Emmaüs » raconte les premières années de la communauté qu'il a créée. Et c'est lui qui fait la présentation du film dans les premières minutes.
Mes amis, vous allez voir un rien, une minuscule semence. Vous allez la voir dans ce film naître, germer, croître. Ce n'est pas ce que les camarades et moi nous avons fait, mais véritablement c'est ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé avec des hommes qui étaient désespérés, mais qui ont compris qu'ils avaient une mission qui était de donner une leçon au monde tout entier. Leur dire, regardez, regardez ce que nous les bons à rien, avec de l'ordure, regardez ce que nous avons réussi à faire. Dans ce récit, nous avons voulu que soit respectée la vérité. On n'a changé que ce qu'il fallait changer pour ne pas violer les secrets de la douleur de chacun. Mais dans le détail, tout est prêt.
Le film sort sur les écrans au mois de février. 4 mois plus tard, l'abbé Pierre fait de nouveau la une de l'actualité. Le tribunal civil de la Seine vient d'autoriser l'expulsion de 12 familles qui occupent un hôtel désaffecté dans le 10e arrondissement, rue de Strasbourg, à Paris. L'abbé Pierre convoque immédiatement la presse pour faire part de son mécontentement.
Les aberrations du collectivisme ont pour père et pour mère les aveuglements des individualistes qui ne savent plus que la malédiction commence le jour où l'on s'abandonne à la lâcheté d'admettre de vivre heureux sans les autres. Le droit de propriété est à la fois sacré et limité. Sa limite lui est fixée par le bien public fondamental. L'autorité des tribunaux, de même. Le temps est encore proche. Ou plutôt que d'appliquer des lois créant des situations iniques, des juges brisaient leur carrière. L'heure est venue où de nouveau seules de telles droitures seront à la mesure du drame de la France dans cette matière du manque de logis.
En contrepartie, le tribunal a en effet proposé à chaque famille une compensation financière. Pour l'abbé Pierre, c'est une honte.
Nous rejetons avec mépris la proposition reçue d'une aumône à chaque famille pour qu'elle déguerpisse de bon gré. Retournant volontiers cette offre, nous proposons à ceux qui l'ont faite de bien vouloir céder pour la même somme les lieux où s'abrite le bonheur de leurs enfants et d'aller dormir sur le trottoir. Quand ils l'accepteront, nous songerons à les prendre au sérieux. Nous appelons tous les Parisiens à se tenir prêts à s'opposer demain à notre appel, à toute tentative d'expulsion de ces 12 familles jusqu'à ce qu'un logement leur soit procuré. Leur malheur prend valeur de symbole parce que le jugement qui les frappe est le premier de ce genre depuis longtemps dans la région parisienne. Ce jugement équivaut à une déclaration de guerre.
Mais malgré sa détermination, l'abbé Pierre ne parvient pas à empêcher l'expulsion. On est en période estivale, tous ces gens qui ont été mis dehors doivent trouver à se loger, et les centres sont fermés. Du coup, à la fin juillet, l'abbé Pierre ouvre un camp d'hébergement provisoire. Et le journaliste d'Europe numéro 1, Gilbert Lauzin, décide d'aller sur place et rencontre l'une des responsables.
C'était un camp provisoire, bien entendu. Aujourd'hui même, je me suis rendu de nouveau sur les bords de la Seine, sous le pont Sully, encore. Et là, j'ai trouvé que la population de ce camp d'hébergement provisoire avait plutôt augmenté que diminué. En effet, aujourd'hui, 92 familles et 190 enfants vivent là. Je suis entré au bureau d'accueil. J'ai en face de moi une dame qu'on appelle Michel, je crois, n'est-ce pas?
Oui.
Bon. Et je voulais vous demander, combien y avait-il de personnes ici à l'ouverture de ce camp?
À l'ouverture de ce camp, il y avait à peu près une centaine de personnes qui sont partis après, les célibataires sont partis au centre du pont Tolbiac. Nous avons gardé uniquement les familles ici.
Oui, et tout le long du quai, des tentes se sont montées, n'est-ce pas, et abritent les gens. Combien y a-t-il d'abris, justement?
Il y a 82 tentes.
82 tentes pour abriter ces 92 familles.
Et dans la foulée, Gilbert Lauzin décide de tendre le micro d'Europe numéro 1 aux sans-abri hébergé dans le centre.
J'ai suivi Michel et je suis entré maintenant dans le dortoir, un dortoir en bois qui a été installé sous l'arche même du pont. Je me suis approché d'une famille qui vit là. Monsieur, vous appelez comment?
Monsieur Selva.
Ah bon, vous avez des enfants?
Oui, 4 enfants.
4 enfants. Et vous venez d'où?
D'Algérie, d'Oran, quoi.
Ah, vous êtes arrivé quand en France?
Eh bien, je suis arrivé le 25 janvier.
Et quelle était votre situation là-bas? Ben, pourquoi?
Eh bien, là-bas, je travaillais, je suis un patron pendant 17 années. Oui. Il a fallu que je quitte parce que j'ai un enfant, deux jumeaux, mais le dernier. Le deuxième est très malade, il est asthmatique. Ah. Les docteurs m'ont conseillé de venir en France.
Bon, et qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment êtes-vous arrivé ici, à ce centre d'hébergement?
Ce centre d'hébergement, je suis arrivé, quoi. On m'avait dit de venir en France aussi, parce qu'il y avait un copain me cherchait une chambre. Je suis venu, mais juste au moment que la Seine avait débordé, mais tous les hôtels étaient occupés par les sinistrés. Alors, je suis resté dans la rue. Ma famille après est venue, ma femme et mes 4 enfants. On était dans les hôtels.
Alors, vous disiez, madame Salam?
J'étais à l'hôtel, mais j'ai passé les jours dans les squares avec les enfants. Et la nuit, il rentrait, mon mari avec deux et moi avec deux. Parce que dans les hôtels, on ne veut pas avec des enfants.
Et vous payiez combien dans cet hôtel où vous étiez?
Une nuit, on a payé 1 500. Une autre nuit, on a payé 2 000. Mais ce n'est pas possible, mon mari ne gagne pas.
Qu'est-ce que vous gagnez? Quelle est votre situation d'abord, monsieur?
Au moins ici en France, je n'ai pas pu trouver de mon métier. Je suis ébéniste, mais je fais le manœuvre dans une usine. Je suis très bien payé. Je tiendrai le coup.
Et vous espérez trouver un logement avant l'hiver?
Pour le moment, je suis au centre de l'abbé Pierre, quoi. Il m'a donné l'espérance d'être relogé d'un moment à l'autre.
Eh bien, je vous souhaite bientôt d'être relogé. Merci, monsieur Sabin. Nous avons quitté l'abri provisoire maintenant et nous approchons d'une tente où habite une famille. J'entre moi-même dans la tente. Madame, comment vous appelez-vous?
Gavard.
Et quel est votre cas? Quelle est votre situation?
Je suis expulsée d'Alfortville vu que nous ne payons pas de loyer et que nous... C'était vraiment insalubre.
Ah bon, dites-moi madame, vous êtes toute seule je crois?
Oui, avec 4 enfants.
Toute seule avec 4 enfants. Et quelle est votre situation? Vous travailliez avant ou...
Avant non, je ne travaillais pas, je vivais sur la paye à mon mari et mes allocations familiales.
Ah bon, et comment s'est passée cette expulsion? Vous viviez dans un appartement ou une chambre?
Non, dans un appartement, une pièce et une cuisine. Mais alors c'était insalubre, il pleuvait comme dehors.
Et vous vivez maintenant tout près de la Seine, à quelques mètres même de la Seine, sous une tente avec vos 4 enfants?
4 enfants, oui.
Ah bon, je crois même que c'est un de vos enfants qui est tombé à l'eau.
Dans la Seine, oui.
Comment s'est passé quoi? Il se promène bien sûr, il n'y a pas de garde-fou.
Oui,
il...
C'était promené vers l'autre côté de la berge et alors... on a eu juste arrive à temps pour le repêcher.
Ben, en effet. Dites-moi, est-ce que vous espérez quand même trouver quelque chose avant cet hiver?
Ben, j'espère quand même.
Comment allez-vous faire si vous ne trouviez rien? Est-ce que sa situation va quand même être difficile, je pense?
Le pire, ça va être pour les enfants, c'est ça?
Oui,
nous, encore, une grande personne peut quand même bien...
Malheureusement, la population de ce camp d'hébergement semble augmenter de plus en plus.
Bah oui, plus en plus. De l'autre côté, c'est pareil.
Je vous souhaite, madame, de tout cœur, je souhaite de trouver très rapidement un abri. Oui, merci, madame.
Toute l'année 55, les médias se font le relais de son combat. Le 26 octobre 55, la télévision lui consacre même une émission de 30 minutes. Et au cours de cette émission, des dizaines de mal logés témoignent. Ils sont nombreux à affluer au centre de secours d'urgence créé par l'abbé Pierre rue de la Bourdonnée. À Paris.
C'est la première fois, madame, que vous venez ici ce soir?
Non, ça fait le troisième jour.
Ça fait le troisième jour? Pourquoi est-ce que vous êtes venue?
Parce que je n'ai rien, monsieur. Je suis dans un hôtel, à la chambre la nuit seulement.
Et vous ne pouviez plus?
Non, forcément. Nous avons été jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. Nous étions une chambre d'hôtel au mois, mais ça a été reconnu insalubre. Donc, on nous a donné un de jour pour trouver quelque chose.
Alors,
on
a donné
congé. Mon enfant est chez ma sœur.
Vous avez un enfant?
Oui, 9 ans.
Vous avez un mari?
Oui, mon mari
travaille.
Ici aussi.
Il
a du travail là, pour le moment. Il n'en avait pas, mais maintenant, il va recommencer. Il travaille pour demain.
En 55, l'abbé Pierre semble être la seule source d'espoir pour les nombreux laissés pour compte. Et du coup, les gens prennent leurs plumes pour le solliciter.
Mais justement, cette question du logement, vous avez fait quelque chose? Vous avez fait des demandes?
Oui, j'ai demandé premièrement l'inscrit rue...
Quai
des Célestins. Et en plus de ça, nous envoyons une lettre à l'abbé Pierre qui nous a répondu qu'il prenait notre avis en considération et presque sûr qu'il nous donnerait quelque chose avant la fin de l'année 56.
Et du côté plus officiel, on ne nous a pas répondu?
Non, rien du tout.
On nous répond toujours le même papier.
C'est-à-dire, il nous a répondu qu'une chose, qu'on avait un numéro d'ordre, j'ai 36 000, c'est plus des poussières, et qu'on penserait que quand notre numéro sera arrivé, qu'il sera à jour, automatiquement, il nous avertirait si vraiment...
Il y avait quelque chose.
Il y avait quelque chose, mais alors malheureusement...
Vous n'y comptez guère.
J'y compte guère, mais alors j'ai une espoir, c'est l'abbé Pierre.
Merci bien. Merci, madame.
Nous voilà maintenant à la fin de l'année 1955, à l'approche des élections législatives. Et l'abbé Pierre en profite pour faire passer un message à tous les candidats.
L'Union nationale d'aide aux sans-logis, qui est un mouvement filial d'Emmaüs, né de l'appel de l'abbé Pierre, a décidé à l'occasion des élections... d'envoyer à tous les candidats une charte du logement que vous avez entre les mains. Et lorsque nous envoyons cette charte du logement, nous entendons faire prendre position par les candidats aux élections sur le problème du logement. Et nous désirons que tous les candidats prennent très nettement position sur cette charte du logement, sur leur action dans le domaine du logement, s'ils sont élus à l'Assemblée future. Et si nous attirons l'attention de l'opinion publique sur ce fait que la Constitution prévoit la solidarité de tous les Français devant une calamité, c'est parce qu'il s'agit bien là d'une calamité et qu'il n'est pas possible qu'on la règle par des moyens normaux, qu'il n'est pas possible qu'on continue à traiter le problème du logement comme un autre problème parmi d'autres et sans plus de lui donner de priorité. Il n'est pas pensable que l'on isole le problème du logement des autres problèmes politiques. Il est bien certain que quand nous entendons porter ce débat sur le plan politique, il faut aussi le considérer dans son contexte et qu'il ne sert à rien de construire des logements si les loyers ne peuvent pas être payés par des ouvriers ayant un salaire insuffisant. Et nous parlons de la création d'une industrie du logement, nous parlons de formation professionnelle accélérée, d'accélération et de simplification des formalités, enfin tout point, toute chose que vous connaissez déjà et qui n'ont qu'un but, c'est faciliter la construction. Les squattages seront évités dans la mesure où il n'y aura pas de locaux inoccupés et donc dans la mesure où les pouvoirs publics prendront les dispositions qui s'imposent en face de l'accaparement des locaux et la spéculation immobilière. Voilà donc la charte. Elle a été soumise jusque maintenant à tous les partis politiques ayant déposé une liste sur le plan national, enfin ayant déposé leur titre sur le plan national, c'est-à-dire les 28 partis nationaux. Nous n'avons pas reçu beaucoup de réponses, je dois le dire, jusque maintenant. Nous avons demandé à chacun d'entre eux de nous fixer des rendez-vous. Ils commencent à arriver aujourd'hui. Il y a déjà plus de 8 jours que ces listes sont parties. Nous allons envoyer ensuite à tous les candidats de France la charte elle-même avec une lettre leur demandant de prendre position.
Après l'appel de l'abbé Pierre et la mobilisation de 1955, une mesure marquante verra le jour, l'instauration d'une trêve hivernale, loi qui sera inscrite au journal officiel un an plus tard.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
L'Auvergnat de Georges Brassens en 1955.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
Le 25 octobre 1955 se tient à New York un procès pour pillage qui réunit la quasi-totalité des grandes maisons de haute couture françaises. Et le prévenu dans le box est un Américain du nom de Frederick Milton.
Cette conférence de presse a été convoquée par les maisons Dior, Fat, Lanvin et Patou pour vous tenir au courant d'un événement que nous pensons d'un grand intérêt pour les milieux de la mode et le public en général dans le monde entier. L'attention de ces 4 maisons de couture a été attirée sur une affaire de pillage de leur création d'une étendue inouïe telle qu'on ne l'a jamais constatée jusqu'à maintenant. On s'est aperçu qu'il existe à New York un service de croquis qui est publié et distribué à ses abonnés dans la première semaine qui suit l'ouverture des collections à Paris. L'instigateur de ce service est un certain Frederick Milton. Les maisons Dior, Fat, Lanvin et Patou viennent de réagir énergiquement en intentant un procès à New York contre ce Frederick Milton.
La somme demandée en dédommagement par les marques françaises est très élevée, comme l'explique l'avocat américain qui le représente.
Je crois que ces maisons de couture demandent la somme de 500 millions de dommages et intérêts à Frederick Milton, n'est-ce pas ?
Oui, c'est à peu près exact, c'est-à-dire, pour être plus exact, c'est 1 350 000 dollars.
C'est que ce Frederick Milton était très organisé. Et le préjudice pour les maisons de couture françaises est considérable.
Mais comment procédait Milton ?
Par des moyens nécessairement clandestins, Milton arrive à se procurer des croquis de presque tous les modèles de toutes les maisons de haute couture importantes. Il fait reproduire ces croquis par un procédé rapide et les envoie à ses abonnés du monde entier. Milton a distribué à ses abonnés, et pendant les premiers jours du mois d'août, 142 croquis de Dior, 91 de Fat, 21 de Lanvin Castillo et 50 de Patou.
La question de l'application de la loi se pose alors. Ah oui, le pillage émane des États-Unis et pas de la France.
Est-ce qu'il existe dans la législation américaine une possibilité pour les maisons françaises de recourir contre les agissements de Milton ?
Vous savez certainement que la protection de la création artistique en matière de mode et beaucoup moins évolué aux États-Unis qu'en France. Pourtant, il existe en droit américain certains principes qui semblent être applicables à ce genre de contrefaçon. Et puisqu'il est certain que Milton se procure nos croquis par des personnes qui ont des engagements contractuels vis-à-vis des couturiers parisiens, ceci constituera un autre motif important de notre procès.
Heureusement, ce procès n'empêche pas les ateliers de haute couture de célébrer la Sainte Catherine. La tradition des Catherinettes est bien ancrée dans le milieu de la mode.
La Sainte Catherine, une Sainte Catherine presque ensoleillée, a redonné la rue aux cousettes. Tous les ateliers de Paris ont libéré pour une journée leur première, seconde, petite main et arpètes en l'honneur de celle qui fête, sourire aux lèvres et bonnet en tête, mais avec peut-être une légère mélancolie, leurs 25 ans sans mari.
Le 25 novembre 55, les grandes maisons de couture parisiennes fêtent donc l'événement comme il se doit. Et Europe numéro 1 dépêche un journaliste pour l'occasion. Un reporter qui semble plutôt content de son sort.
Je veux bien vous interviewer, mais vous m'embrassez.
Ah oui, oui, oui.
Allez-vous. Alors, chiche.
Oui, oui.
Alors, allez-y, allez-y. Qui commence, vous? Vous êtes des anges, et vous aussi? Ah, c'est très gentil, vous aussi. Bravo. Ah, vous aussi. Merci. Eh bien, je n'aurais jamais été autant embrassé de ma vie. Deux à la fois, mais c'est beaucoup trop, vous allez m'étouffer. Vous aussi, mademoiselle? Merci, merci. Alors, qu'est-ce que vous préparez, là? Ah, écoutez, ne parlez pas tout à la fois. Les lavandières du Portugal. Très bien, et c'est monsieur Balmain qui s'est occupé de vos costumes ou vous-même? C'est vous-même? Et vous êtes déjà prête alors qu'il n'est que 11h du matin? Alors que... merci, mademoiselle.
Oh, et les amis... moi aussi, parce que je vais vous embrasser parce que je suis de Bordeaux. Et j'ai des filles.
Ça me paraît une raison suffisante. Allons-y, mademoiselle. Voilà. Bon, écoutez, mes petites filles, c'est très gentil tout ça. Les lavandières du Portugal, bravo pour les petites mains de Balmain. Mais alors, je voudrais que vous me chantiez la chanson. Est-ce que vous la connaissez au moins?
Oui.
Vous êtes d'accord?
Oui.
Et si vous chantez faux, gare à vous.
Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait, aussitôt ils se leur voient faire de leurs épaules en train de frais. Oui, mais si c'est un bas du pied, ou bien même quelque rayon d'algo, elles s'amusent à le mouiller, en chantant du bas et railler. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla, tant qu'il y aura du linge à laver, les amants pourra se passer.
Eh bien, écoutez, bravo et merci d'avoir pensé à moi quand vous avez parlé de l'homme beau et bien fait.
Après la maison Balmain, le reporter d'Europe numéro 1 file chez Christian Dior. Et là aussi, l'ambiance est survoltée.
À peine remis de ses émotions, je me suis rendu cet après-midi chez Christian Dior. Chez Christian Dior, sous la direction de Robert Allard, on chante et on danse, comme vous pouvez vous en rendre compte tout au moins en ce qui concerne le chant. Quittant les salons de Christian Dior, je me suis rendu dans les salons de Geneviève Fat. L'on danse et on chante aussi dans une ambiance fort agréable, ma foi. Et c'est là que j'ai rencontré, puis-je me permettre de vous demander votre nom, monsieur?
Monsieur Dominique Serre.
Monsieur Dominique Serre, qui est, dit-on, un Catherinet ou un Catrino? Je ne sais pas, vous avez
25
ans. Catherinet. Vous avez 25 ans.
25 ans.
Alors, est-ce l'état de célibat ne vous pèse pas trop, monsieur?
Ah, pour le moment, non.
Vous sentez bien?
Oui, très bien.
Jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien. J'espère que vous n'avez tout de même pas fait vœu de chasteté ou de célibat, non?
Ah non, pas du tout.
Ça n'est pas définitif. D'ailleurs, il y a une charmante personne en train de vous embrasser ici.
Oui, alors... oui, c'est Jackie Mannequin, charmante et adorable d'ailleurs.
Eh bien, écoutez, vous avez beaucoup de chance.
Mais oui,
vous avez
beaucoup énormément.
Et surtout d'être dans une ambiance aussi. Elle vous embrasse une seconde fois.
Oui, elle m'embrasse.
Écoutez, non, c'est de la provocation, je préfère me retirer. Merci, monsieur.
Je vous en prie.
Et sur ces paroles définitives, j'ai tristement redescendu mon petit escalier pour retourner à Europe numéro 1. Mais la soirée n'est pas terminée, il me reste encore, j'emmène le compte, Givenchy, Dessay, enfin j'ai toute la liste en poche. Soyez tranquille, je saurai employer mes loisirs ce soir. Merci.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Est l'année Jean Gabin. L'acteur est le chouchou de tous les réalisateurs du moment. Il est à l'affiche de plusieurs films. French Cancan, Gasoil, Napoléon, Razzia sur la chenouf et Chien perdu sans collier. French Cancan de Jean Renoir diffère des autres films cette année-là, puisqu'il est en couleur.
Regarde-moi bien, est-ce que j'ai une gueule de prince charmant, hein? Pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est ce que je crée, ce que je fais. Et ce que je fais, tu sais ce que c'est? Eh ben, c'est toi, c'est elle, c'est elle. Il y en a eu d'autres avant, puis il y en aura d'autres encore, crois-moi. Ce que tu veux ou ce que moi je veux, est-ce que tu crois que ça compte? Est-ce que ça pèse dans la balance? Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ce que eux là-bas veulent. Le métier, c'est d'être au service du public.
Tu sais pourquoi j'ai du chagrin de devoir partir?
C'est pas parce qu'ils vont tout casser si tu n'entres pas, je m'en fous royalement.
Je sais pas ce que mon métier perd à mon petit soldat.
Et puis merde, je croyais que t'étais les nôtres. Eh ben, dis que t'en es pas, fous-moi le camp!
Mais c'est avec son rôle de juge pour enfants dans Chien perdu sans collier que Jean Gabin se démarque.
Alors maintenant, décide-toi parce qu'ils vont rappeler, hein.
Je veux pas être tendu.
Ah, mon vieux, je te l'ai déjà dit, ça dépend de toi. Et encore, t'as de la veine parce que d'habitude, quand on s'évade des Tuileries, c'est automatique. À zéro.
Pas quand on s'évade, quand on se fait piquer.
Oui, on va servir au même. En tout cas, je te crois pas. Tu tiens pas tellement à tes cheveux parce qu'autrement, il y a longtemps que tu m'aurais dit où se plante ton petit copain Gérard, hein.
Je veux pas moucharder.
Mais je te demande pas de moucharder, je te demande d'être franc. Dans l'intérêt de tes cheveux.
Pour son interprétation dans Chien perdu sans collier, Jean Gabin reçoit la victoire du meilleur acteur de l'année. Et où ça? Au ministère du Commerce et de l'Industrie.
À Paris, M. Maurice Le Maire, ministre de l'Industrie et du Commerce, a remis à René Clair et aux meilleurs élèves du cinéma les prix de fin d'année. En l'occurrence, les victoires qui sont l'équivalent des Oscars américains. À côté de Michel Morgan, l'héroïne de La Strada, Violetta Masina, a inscrit son nom à ce palmarès. On y comptait aussi Jean Gabin et quelques absents qu'on regrettera, Martine Carole, Gérard Philippe, Vittorio De Sica, Marlon Brando et Gina Lolo Brigida.
Un autre artiste français, en revanche, peine pour l'instant à se faire une place au soleil. Il a 31 ans et il s'appelle Charles Aznavour. Pour l'instant, il est surtout connu dans le milieu en tant que faiseur de chansons. Il écrit admirablement bien pour les autres, notamment pour Juliette Gréco ou pour Édith Piaf. Mais lui se verrait bien chanteur. En juin 1955, il se produit pour la première fois à l'Olympia en première partie de Sidney Bechet. Je dois vous dire que sur scène, Charles Aznavour essuie pas mal de critiques. Drôle de voix et raillé, disent les gens. Drôle de physique aussi, il est tout petit. Heureusement, une chanson lui fait gagner ses galons d'interprète. Sur ma vie.
Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait offrir mon nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux je t'attendais.
À partir de là, l'artiste commence à compter quelques soutiens. Et en août 1955, il apparaît pour la première fois à la télévision dans une émission qui s'appelle Télé Paris et qui est présentée par Roger Ferral.
Voici le reste surprise annoncé à la grande joie de nos téléspectatrices. C'est notre ami Charles Aznavour que nous allons applaudir tout de suite d'abord. Hein, applaudir. Mais voyons. Charles Aznavour, poète, compositeur, chanteur et garçon charmant par-dessus le marché.
Merci.
Non, c'est vrai, tu as beaucoup de talent. Je te dis ça comme ça parce que je le pense depuis longtemps. Depuis très longtemps. Tu es à Cannes pour longtemps?
Hélas, je pars demain.
Hélas, je pars demain.
Eh oui.
Et tu vas sur les grandes routes poudreuses.
Ah oui.
Tel le poète, le troubadour et le baladin.
Une ville par jour.
Une ville par jour.
À l'époque, c'est bien ça. Les baladins, troubadours, ils n'en faisaient pas autant, je pense. Une ville par... Ils n'avaient pas le temps d'arriver.
C'est pas ça, ils étaient plus rapprochés.
Oui, on a une belle voiture.
Alors, tout va bien.
Charles Aznavour interprète ce jour-là une autre de ses chansons qui s'appelle Le Palais de nos chimères.
Nous nous sommes mariés par un jour de printemps, sans prêtre, sans mairie, sans amis ni parents. Nous n'avions tout au plus, elle et moi, que 20 ans, mais un désir d'adulte brûlait nos cœurs d'enfants. L'amour en une nuit émancipa nos cœurs, nous étions enlacés, tout honte de bonheur. Dans nos yeux agrandis ne passait nulle peur, car la jeunesse rit quand l'enfance se meurt. Le palais de nos chimères, nous l'avions bâti sur l'horizon. Et nous ceinturions la terre, et les mois, comme des vagabonds. Pour s'abreuver à la source de l'amour, cet éternel printemps. Nous nous partagions la mousse du château de la Rose des Vents.
Entre les chansons qu'Aznavour écrit pour les autres et celles qu'enfin il interprète lui-même, sa carrière commence à décoller. Le 6 septembre 1955, Aznavour est sur Europe numéro 1 pour parler cette fois d'un ballet qu'il a écrit et composé.
Tout à l'heure, où étais-je ? Eh bien, j'étais avec Charles Aznavour, le compositeur bien connu. Charles Aznavour, vous venez de composer une musique pour Géraldine et l'amour, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Eh bien, je viens de composer aussi la musique d'un ballet qui sera présenté à partir de demain au Théâtre des Champs-Élysées.
Est-ce très indiscret de vous demander le thème de ce ballet ?
Le thème de ce ballet, c'est la gosse de Paris, simplement. C'est l'histoire d'une gosse de Paris qui vend des oiseaux et qui s'attache particulièrement à un des oiseaux.
Est-ce que vous pourriez nous interpréter un petit peu le thème du ballet ? Je sais que c'est très indiscret.
Ce qui se passe, c'est que j'ai appris le piano sans l'apprendre, exactement, je l'ai appris d'oreille. Et ça sera vraiment la première fois que je jouerai du piano à la radio.
Eh bien, Europe numéro 1 vous en donne l'occasion et vous demande instamment de jouer tout de suite pour nous pour la première fois.
Je ne joue qu'en do, hein, je vous préviens, parce que les autres tonalités, je n'ai pas eu le temps de les apprendre.
Je vous en prie.
Alors, c'est un petit ballet semi-classique et semi-chanson, je dirais pas moderne, parce que je suis un amoureux de la chanson. J'ai écrit un ballet chanson avec des petits passages classiques, mais quand il arrive très vite, je reviens à la chanson. J'ai par exemple écrit un petit pizzicati, j'espère pouvoir vous jouer comme ça d'une main.
J'en suis
doigt,
sûr.
D'un doigt d'un côté, puis d'un doigt de l'autre, un doigt par main. Voilà. Et ça reprend naturellement en chanson, ça fait... etc, etc. Voilà. Et le thème principal, et c'est le suivant, ça fait...
Aznavour, en 1955, sur l'antenne d'Europe numéro 1. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1955 dans le 5e épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.